Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. En cette fin d'année, j'avais envie de vous proposer un très beau livre, puisque c'est la saison des beaux livres que l'on offre ou que l'on s'offre. Et puis vous faire découvrir ou redécouvrir ce que j'appelle un homme multiple. Un artiste, un écrivain, un botaniste, un archéologue, bref. Mais on le connaissait moins sous l'aspect des sciences. Cet homme qui est, nous a quittés en 1973, également l'auteur d'une grande saga, dirais-je, avec des personnages, qui est aussi un inventeur des langues, un inventeur de monde. Pour nous parler de ce personnage que l'on va nommer tout à l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir, je dirais, sans doute un des spécialistes, en tout cas sans doute un passionné. Bonjour Jean-Sébastien Steyer.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes pour ce magnifique livre aux éditions Belin, Tolkien et les sciences. Alors d'abord, on va d'abord parler de vous. Qui est Jean-Sébastien Steyer?
Alors je suis paléontologue au CNRS et je travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris.
Passionnant, passionnant, un beau métier. Alors, je disais, là, c'est, on connaît Tolkien hein, pour Le Seigneur des Anneaux, entre autres, hein, les Hobbits, cet inventeur de langues, de mondes. Et là, c'est Tolkien et les sciences dans un livre, alors vraiment somptueux, avec des textes superbes, de magnifiques illustrations dont on parlera plus tard. Êtes-vous personnellement un passionné? Alors Tolkien, on le connaît aussi sous J.R.R. Tolkien. Hein. Il est né en 1892, c'est un Anglais, et il nous a quittés en 1973 en laissant, dirais-je, une œuvre majeure. Vous-même, êtes-vous un passionné? Qu'est-ce qui vous a amené à Tolkien? Dites-nous, parlez-nous de votre rapport à ce personnage.
Je l'ai lu en fait très tôt, alors comme tout le monde, hein, j'ai commencé en fait par Bilbo, par Le Seigneur des Anneaux,
ensuite
Bilbo et les autres œuvres. Mm-hmm. Et puis cet univers médiéval fantastique m'a plu beaucoup, m'a un petit peu bercé entre guillemets pendant mon adolescence. Mm. Je suis un ancien rôliste aussi, j'ai beaucoup joué à AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, qui était un jeu de rôle issu en fait de cet univers très complexe. Mm. Et c'est assez récemment en fait que je me suis dit tiens, ça serait intéressant de d'utiliser entre guillemets cet univers très construit, très complexe pour parler de science en fait. Et le déclic a été un article d'un collègue journaliste scientifique, Loïc Mangin, qui est un des rédacteurs en chef de la revue Pour la Science, qui s'occupe de la rubrique Science et Art justement. Mmh. Il a publié une petite synthèse sur des collègues géologues qui se sont penchés sur la Terre du milieu. C'est une partie, en fait, du monde géographique, on va dire, de Tolkien. Mm-hmm. Et en sortant cet article-là, en parallèle, en fait, moi, de mon côté, je sortais dans la revue Espèces, qui est une belle revue d'histoire naturelle, une petite analyse biomécanique des hobbits. Je considérais, en fait, les hobbits comme s'il s'agissait, finalement, d'êtres réels ou en tout cas fossiles que je pouvais trouver éventuellement entre deux strates géologiques. Mmh. Et j'ai tenté en fait de les comparer à d'autres mammifères ou humanoïdes avec des grands pieds pour voir comment ces petits êtres-là seraient capables en fait de marcher.
Oui.
Et finalement j'ai appelé Loïc et je lui ai dit écoute, il y a peut-être quelque chose à faire sur les sciences naturelles, voire même les sciences au sens large, en fait, dans ce monde, dans Tolkien. Et alors, il y avait déjà, en fait, beaucoup d'analyses en linguistique, oui, en philologie, parce que Tolkien lui-même était un philologue, mm-hmm, un linguiste, un professeur, en fait, d'université à Oxford, notamment.
Oui.
C'était aussi, et on le sent dans son œuvre, dans son légendarium, en fait,
hein,
qui
fait.
Est une œuvre monde, finalement.
Oui.
On sent aussi l'importance des paysages, des cartes, bien sûr, mais aussi des créatures, des monstres, des oiseaux, des arbres, etc. Et ce qui fait effectivement de Tolkien un auteur multifacette, comme vous le dites, et c'est ces multiples facettes qui nous ont intéressés, nous, dans ce collectif où effectivement les éditions Belin Humaine 6 ont vraiment joué le jeu du beau livre scientifique. On a été ravis de travailler tous ensemble. On est près de 40 scientifiques à avoir dépecé ou
décortiqué,
disséqué, si vous voulez.
Décortiqué,
c'est plus joli, parce qu'on reste dans le respect, enfin on espère bien sûr rester dans le respect de l'œuvre, bien sûr. On utilise finalement cette œuvre très riche et très belle comme un énoncé ou plutôt des énoncés de science que l'on s'efforce en fait d'expliciter.
Alors, il y a plein de choses à dire, hein. Les 30 minutes de l'émission ne suffiront sans doute pas, mais comme ça, ça laissera l'envie, la curiosité à nos auditrices et auditeurs d'acheter le livre et d'en prendre connaissance. Mais alors, moi, ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est qu'effectivement, j'ai découvert des choses. Mais alors, justement, vous disiez tous ces spécialistes qui ont décortiqué les moindres choses, ces personnages et le pourquoi du comment et pourquoi ces langages et pourquoi ces gestes. C'est quand même incroyable. Alors, en plus, ce qui est quand même formidable, c'est que Tolkien, c'est un autodidacte, finalement.
Oui. Alors, il a une solide formation, quand même, il avait une solide formation en littérature comparée, en traduction, puisque il a aussi fait beaucoup de traductions en vieil anglais, notamment, et donc, c'était aussi un spécialiste des mythologies. Donc il a quand même un socle en fait littéraire très énorme finalement que l'on retrouve bien sûr dans son univers. Il y a l'histoire dans l'histoire, il y a différentes langues, il y a cette géographie très complexe aussi, et donc on extrait en fait ces facettes du passionné de sciences naturelles, de sciences humaines et sociales. Et donc on explique un petit peu comment pouvait vivre une société de nains dans une mine pendant des années, quelle serait éventuellement la composition chimique du mithril, est-ce qu'un balrog pourrait réellement voler si on s'amuse à calculer en fait la masse du monstre par rapport à l'envergure de ses ailes, est-ce que les Ents finalement ne seraient pas des sortes de symbioses entre des arbres, des plantes, donc
est-ce que c'est possible, voilà,
des animaux,
est-ce que c'est
voilà
possible,
donc on a essayé de brasser, on n'a pas la prétention bien sûr d'être exhaustif,
bien sûr,
tellement l'univers est
vaste,
riche et complexe,
tout à fait, oui,
et vaste effectivement, mais on s'est attaché à essayer de brasser aussi bien des sciences naturelles que des sciences chimiques et physiques, ou aussi des sciences humaines et sociales, parce que on a même un psychanalyste qui nous fait une analyse, un diagnostic du pauvre Gollum.
Oui.
Vous voyez, donc il y a matière en fait.
Mais c'est ça justement qui m'a amusé, c'est que finalement, j'ai envie de dire que Tolkien, c'est un monde dans le monde. Enfin, ce sont des mondes dans le monde, vous voyez, un petit peu. Et je me suis dit, alors finalement, de choses comme ça, fantasmagoriques, presque, eh bien, on en fait un univers réel dans lequel on analyse chaque parcelle de choses, la faune, la flore, et finalement, tout devient réel. De l'irréel, de l'imaginaire, on arrive à un monde réel, parallèle, mais réel.
Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. On peut, je pense, parler de mythologie moderne en ce qui concerne Tolkien, qui nous laisse et qui nous livre encore, grâce à Christopher Tolkien, qui est l'ayant droit, en fait, des œuvres, et qui, quasiment tous les ans, retrouve des correspondances ou des études, en fait, et publie, édite, en fait, des travaux de Tolkien. Donc, Tolkien est encore vivant, j'ai envie de dire. Et il est d'autant plus réel que sa littérature nous traverse, mais sert aussi, finalement, de socle à pas mal, en tout cas, de civilisations occidentales ou de conscience collective, en fait, parce que l'univers de médiéval fantastique, c'est un univers qui nous touche beaucoup, puisque cette espèce de période médiévale correspond à ce passé en fait réel de l'époque médiévale justement, et puis on rajoute le fantastique, c'est-à-dire la présence du merveilleux, et finalement c'est cette espèce de merveilleux scientifique qu'on a essayé d'extraire dans ce livre qui est aussi illustré par notamment Arnaud Raphaëlian, qui est un spécialiste en illustration héroïque fantasy ou médiévale fantastique.
Oui, magnifique, magnifique illustration d'ailleurs, superbe illustration. Alors, moi, en tant que paléontologue au CNRS, normalement, la plupart des chercheurs qui ont travaillé, on disait psychanalyste, botaniste, archéologue, etc., on peut penser que vous êtes des esprits éclairés, un tantinet cartésien malgré tout, il le faut. Et là, finalement, en décortiquant le livre, comme on dit tout à l'heure, en analysant les choses, moi j'ai eu l'impression, hein, vous me passerez l'expression finalement, que vous êtes tous un petit peu des illuminés. Comme Tolkien.
on est tous finalement, effectivement, vous avez parfaitement raison, un peu des geeks de Tolkien. Donc quand on a proposé, on a fait avec Loïc et Roland Lehoucq, le collègue astrophysicien, on a fait le sommaire finalement assez rapidement, et puis on a proposé en face de chaque thématique des noms de collègues qu'on a contactés, et on a été vraiment surpris de voir que tous les collègues contactés se sont vraiment bien pris au jeu. Ils ont adoré d'ailleurs notre proposition en disant « Ah super, ah bah, je vais me régaler à relire Tolkien ou alors à me replonger dans… »
Ou à découvrir. Est-ce que certains l'ont découvert hein?
Non. En fait, ils avaient au moins lu un roman et vu un film pour la plupart. Mais cette œuvre-là les a marqués en fait parce que je pense qu'ils ont passé ça évidemment par hasard. Et finalement, ça a été un des défis en fait du livre aussi, c'est de parler d'une manière simple au grand public de sciences, de différentes sciences en fait, de différentes disciplines, mais aussi vu que ce beau livre-là ne s'adresse pas à des spécialistes de Tolkien, y avait un effort en fait de diffusion des connaissances, si je puis dire, vers le monde de Tolkien. C'est-à-dire rappeler qui est Gollum pour rafraîchir les mémoires, rappeler où est situé Minas Tirith, par exemple, ou qu'est-ce que le Balrog. Donc il y avait en fait un double effort à faire de la part de ces 40 collègues, non seulement vulgariser leur science, mais en plus rappeler et diffuser, en fait, vulgariser entre guillemets le monde de Tolkien.
Alors, est-ce que, avec ces 40 spécialistes, je dirais des chercheurs, des savants, des têtes pensantes, j'ai envie de dire, au travers de cet univers qui devient, on le disait tout à l'heure, de l'irréel au réel, est-ce que vous tous, en tant que chercheurs, vous avez malgré tout soit découvert des choses, soit ça vous a amené à découvrir des choses, ou à mettre en exergue ou en parallèle une forme de, comment dirais-je, de préscience ou d'univers réel, c'est-à-dire des choses qui vous paraissaient qui n'existaient pas, finalement, à amener à vos propres découvertes, à vos propres spécialités, finalement, un plus.
Moi, personnellement, non, mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est du coup d'autres exégèses, c'est-à-dire des analyses en fait du monde de Tolkien. Grâce à ce projet-là, j'ai pris contact avec l'association Tolkien Guild, qui est pour le coup une association de spécialistes de Tolkien, de tolkienistes, si vous voulez. Et ils nous ont beaucoup aidés en fait pour les références bibliographiques, pour creuser en fait cet énoncé finalement que l'on utilisait à des fins de vulgarisation scientifique. Et du coup, grâce à eux et grâce à ce projet, j'ai découvert des analyses d'astronomie très fines sur le monde de Tolkien à partir de descriptions ou de correspondances que l'auteur avait à l'époque avec un autre collègue. Ou voilà, c'était finalement des recherches bibliographiques. Cet exercice-là, en fait, nous a tous quasiment poussés à creuser en fait les références bibliographiques et à rentrer encore plus dans le monde fascinant de Tolkien.
J'imagine. Eh bien moi, ce que je vous propose comme monde fascinant, un petit instant, c'est une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Jean-Sébastien Steyer sur Tolkien et les sciences aux éditions Belin. Alors, j'imagine aussi que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un psychanalyste. Le psychanalyste, c'était pour, je dirais, le mental de Tolkien, son approche de la littérature, des sciences, de ses mille et une activités, ou du personnage dans son ensemble, ou de son œuvre, ou de la façon dont il les a réalisées. Quelle a été la démarche du psychanalyste, finalement ?
La démarche du psychanalyste, alors il s'agit de Thierry Gendrobe, en
oui.
fait, qui a déjà œuvré finalement sur une sorte de psychanalyse des super-héros. Thierry Gendrobe est un psychanalyste très érudit et original qui travaille en fait à décortiquer finalement la psychologie des personnages de la culture des mondes imaginaires. Mm-hmm. Et quand on lui a proposé ce projet avec Tolkien, il a été ravi de participer. Donc il est parti en fait beaucoup des personnages complexes. Du monde de Tolkien. Alors il n'y a pas que Gollum, hein, il y en a d'autres. Et donc il les a, comment dire, analysés comme s'ils existaient réellement, en posant en fait des hypothèses de travail qu'il a creusées dans plusieurs directions pour diagnostiquer d'une manière la plus finalement réaliste ou plausible possible les différents cas que l'on peut rencontrer dans ce monde de Tolkien. Mmh.
Est-ce qu'il y a une forme de fascination de ces chercheurs ou d'une certaine généralité par rapport à cet homme, je dirais, multiple, intelligent, brillant, créatif, inventeur, un peu comme ça, un peu parti aussi, un peu barré, dirais-je, d'une manière un petit peu. Mais est-ce qu'il peut y avoir une forme de fascination, en tout cas d'admiration, de curiosité, bien évidemment aussi?
Ah oui, je pense que tous les auteurs sont vraiment des admirateurs en fait de Tolkien, qui a non seulement plusieurs facettes en ce qui concerne ses passions pour les sciences en général, mais il a cette dualité et cette complémentarité en fait qui est remarquable en tant qu'universitaire.
Oui.
C'est le pouvoir de l'imaginaire, parce que avant qu'il soit en fait professeur d'université, il dessinait, bien sûr, il écrivait des nouvelles et des contes pour ses enfants. Et on sent que l'imaginaire, en fait, l'imagination en général est quelque chose qui est important. Mmh. On a tendance, nous, dans notre société, à faire la distinction d'une manière beaucoup trop nette, à mon avis, entre science et imaginaire, alors que via des œuvres comme celle de Tolkien, qui sont des œuvres mondes, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, la série de livres du Trône de Fer, par exemple.
Oui, du Trône de Fer, ou, Game of Thrones, tout à fait.
Elric le Nécromancien, avant Tolkien, dans le genre médiéval fantastique. On pense aussi à la science-fiction, qui mélange habilement, en fait, ce qu'on appelait le merveilleux scientifique autrefois.
Ouais. Mais Star Wars en fait partie. Star Wars, on peut dire qu'il en fait partie aussi.
Oui, exactement. D'ailleurs, on travaille pas mal avec Roland Le Houx sur le bestiaire Star Wars.
Ah,
et on s'amuse à décortiquer aussi les sciences. Alors lui, en sciences physiques, bien sûr, et en astrophysique.
Oui.
Moi, plutôt en sciences naturelles, donc on se complète bien.
Ah oui, j'imagine.
Et finalement, on se rend compte que l'imaginaire, lorsqu'il est construit d'une manière plausible, pour pouvoir asseoir en fait le monde fictionnel, et bien cet imaginaire-là, on peut l'utiliser pour s'amuser finalement à parler de nos sciences, à dérouler nos sciences et à faire de la vulgarisation de différentes disciplines.
Oui. Alors le livre est fort bien construit, hein, par chapitre, tout est bien. Déjà, on parlait des belles illustrations d'Arnaud Raffaello, si je ne déforme pas trop son nom. Donc chaque univers est bien dénoté, est bien formé. Il y a aussi, comment dirais-je, une forme de sérénité dans l'œuvre de Tolkien. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à regarder le livre. Du coup, je me suis repenchée sur d'autres choses, et notamment le Seigneur des Anneaux. J'ai un petit peu regardé comme ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un monde parallèle, on disait fantastique, mais avec une forme de sérénité, une forme de tranquillité aussi, même si c'est, comment dirais-je, c'est fort, c'est très vivant, c'est costaud, hein, dirais-je, dans l'expression de son œuvre. Mais en même temps, il y a aussi, je trouve, une forme de sérénité. Et votre livre, dans Tolkien et l'essence, le retransmet bien, je trouve.
Oui, c'est sûr que, alors, tout dépend où vous êtes un petit peu dans le monde de Tolkien. Dans le Mordor, je vous mets au défi de rester sereine.
Oui, face à... je suis d'accord. Je suis d'accord.
Mais c'est vrai que, en fait, on a là, que ce soit le Seigneur des Anneaux, ou Bilbo, ou le Silmarillion, ou des autres œuvres, on a souvent des arcs narratifs qui se rapprochent des grandes quêtes. Des quêtes presque mythologiques, c'est-à-dire découvrir un trésor pour sauver une civilisation, ou alors détruire un anneau qui symbolise le mal et la corruption. Donc on a à chaque fois des quêtes qui nous touchent beaucoup, et tout ça est très construit sur des cartes qui ont été étudiées, travaillées, recopiées, émandées, améliorées par Tolkien lui-même au fur et à mesure de la construction en fait de son monde et de ses histoires dans l'histoire. Et on a repris, en fait, on s'est amusé à reprendre cette belle carte de la Terre du Milieu, en reprenant le trajet de la Communauté de l'Anneau, ou de la Fraternité maintenant de l'Anneau, on doit dire en fonction de la nouvelle traduction. Donc Fraternité de l'Anneau d'un côté, pour le Seigneur des Anneaux, et puis l'équipe de Bilbo avec la Compagnie des Nains. Donc on a repris en fait en pointillé ces trajets qui sont énormes en termes de distance, d'efforts parcourus, de relief, de paysages traversés. Et à chaque étape, sur cette carte-là, on s'est amusé à coller non pas des noms de localités géographiques, mais des disciplines, c'est-à-dire qu'on peut faire de la sociologie dans la comté, on peut faire de la phylogénie ensuite à Brie, par exemple, ou de la linguistique chez les elfes à Foncombe, Fendeval aujourd'hui, on va faire de la spéléologie dans les monts brumeux, de la gémologie dans la Moria, etc., jusqu'au Mordor, où on peut faire de la métallurgie, de la volcanologie, en passant par... voilà, on a vraiment en fait après coup établi ce sommaire sur cette belle carte de la Terre du Milieu qui a été redessinée par Arnaud.
Est-ce que l'on pourrait dire, je me suis posé la question en refermant le livre, parce que le livre en fait il donne des réponses, mais il pose aussi, en ce qui me concerne en tout cas, il vous pousse à se poser des questions. Est-ce qu'au bout du compte, on pourrait dire que Tolkien, c'est un profond humaniste ?
Ah oui, 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 sans aucun doute. Il a été d'ailleurs très marqué par la guerre. Ensuite, il a été donc à l'université. Mais c'était un profond humaniste qui avait une passion pour l'humain, pour les humains, d'une part, et puis pour... alors, en plus de la linguistique, de la philologie, de la mythologie, une passion aussi pour les plantes, les arbres et les oiseaux.
La faune et la flore.
La faune et la flore, effectivement, très importante dans ses œuvres. Et il avait, en fait, paradoxalement, une sorte de méfiance vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la science et technique, ou les sciences de l'ingénieur, qui construisent, en fait, des machines. Et ce côté un petit peu science mécanique ou technique l'inquiétait un petit peu. Il voyait d'ailleurs, c'est ce qui transparaît en fait lorsque, par exemple, l'armée de l'Isengard s'apprête à rentrer en guerre. On voit une sorte de mise en place d'artefacts guerriers, avec beaucoup d'ustensiles mécaniques, des roues géantes, des engrenages géants. Et donc, ces sciences et techniques, en fait, on voit que dans l'œuvre de Tolkien, il prenait de la distance vis-à-vis de ces disciplines-là. Et donc, voilà, sans faire de gradation sur les sciences dures, les sciences molles, ou sur les bonnes sciences et les mauvaises sciences, sans apporter de jugement de valeur, on a essayé d'explorer différentes disciplines, en fait, avec ce monde très, très riche.
Très riche, oui. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, que fait un paléontologue que vous êtes au CNRS, Jean-Sébastien Steyer?
Alors, moi, je travaille sur ce qui se passe avant les dinosaures, parce qu'on est tous très spécialisés,
alors, dites-nous,
en fait, en paléontologie.
En matière d'années, on en est à combien de millions d'années?
Alors, on est dans une période entre 300 et 250 millions d'années.
Hier, quoi. Hier ou avant-hier, voilà.
Voilà. Il y a quand même un certain temps à l'échelle des temps, justement, géologiques. Mais à cette époque-là, tous les continents étaient regroupés en un seul
mégabloc. On appelle la Pangée.
Exactement. Et sur cette Pangée évoluaient des sortes de reptiles, trapus, cornus ou bossus en fonction des espèces, carnivores ou herbivores, et des reptiles qui pouvaient d'ailleurs migrer sur des longues distances à travers les différents climats de cette Pangée de l'époque, et dans les marécages, dans les rivières et les torrents de l'époque vivaient aussi des sortes de salamandres géantes. Moi, mon sujet de recherche consiste en fait à mieux comprendre ces environnements terrestres d'eau douce qui traversait la Pangée de l'époque pour mieux reconstruire en fait le climat de la Pangée de l'époque et surtout l'impact d'une grande extinction qui a eu lieu quelques millions d'années plus tard, dont 90% des espèces à l'époque disparaissent.
D'accord. Et on vous savez, enfin vous avez une idée du pourquoi de la question?
Alors oui, on a en fait du côté de la Sibérie et de la Chine d'énormes quantités de laves qui se sont entre guillemets fossilisées aujourd'hui, mais qui correspondent à d'énormes épanchements volcaniques.
Des éruptions volcaniques,
des cendres et des laves qui ont, les cendres notamment, obscurci temporairement en fait l'atmosphère.
Ce qui a bloqué
Pendant une certaine période la photosynthèse, donc les plantes, et ensuite toutes les chaînes alimentaires ont été impactées par ces énormes éruptions volcaniques. Et aujourd'hui, on est en train, alors c'est plus les collègues géologues, ou plutôt même géophysiciens que les paléontologues, mais pour mieux comprendre en fait cette extinction quasi globale, puisqu'il y a seulement 10% des survivants, dont des petits reptiles qui donneront un peu plus tard les dinosaures, mais ces 10% de survivants, en fait, on pense que ils ont pu se cacher aussi à cause de ces cendres volcaniques qui étaient peut-être aussi des cendres d'impact d'une météorite.
D'accord.
Donc on est aujourd'hui en train de rechercher cet éventuel cratère d'impact
de météorite
pour voir si cette extinction n'aurait pas en fait plusieurs causes.
D'accord. Écoutez, c'est passionnant, il faut faire un livre et puis revenir nous voir et nous raconter tout ça.
Voilà. Avec plaisir.
En tout cas, c'est un livre magnifique que vous nous proposez, Tolkien et l'essence aux éditions Belin. Je vous remercie infiniment parce que c'était une belle émission.
Merci à vous.
Passionnante. On y a appris plein de choses. J'aurais bien encore gardé 30 et voire plus, 30 minutes. En tout cas, le livre apporte de belles réponses. Et puis, c'est toujours merveilleux de se retrouver dans le monde de Tolkien, dans ce monde des sciences dont on n'a pas forcément parlé de cet univers. Aux éditions Belin. Jean-Sébastien Taillard, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à vous aussi de belles fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup, pareillement.
Et j'espère vous retrouver un jour pour ce sujet qui a l'air passionnant, en tout cas pour votre spécialité. Merci à toutes, auditrices et auditeurs, également bonne fête de fin d'année à tous, et je vous dis à l'année prochaine. Merci, au revoir.